Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent vendredi soir ensemble, puisque ce soir, j'ai le plaisir de parler avec un gars qui est pas mal connu de tout le monde, un gars hyper sympathique, c'est Bertrand Godin. Comment vous le décrire? Bon, un coureur automobile, il est chroniqueur, animateur, conférencier, photographe, instructeur, porte-parole de plusieurs choses. Il a une très grande carrière. Il est avec nous ce soir, puis j'ai le plaisir de lui jaser. Salut Bertrand!
Hey, salut! Merci!
Est-ce que tu me permets de te tutoyer?
Ben oui, certain.
Bon, on va se tutoyer, puis après ça, ben quand on raccrochera, on se vouvoiera, OK?
On continue à se tutoyer tout le temps.
Oui. Quelle carrière que tu as connue, puis que tu connais encore, mais quelle carrière tu as connue? Tu as commencé très jeune, je trouve ça exceptionnel, ton parcours. Puis en lisant un peu sur toi, je pensais que j'en connaissais beaucoup sur toi, mais je me rends compte qu'on connaît pas beaucoup de choses sur Bertrand Godin. On connaît beaucoup le coureur automobile, mais tout ce que tu as fait pour en arriver là, ça, il y a très peu de gens qui doivent le savoir, puis je pense que ça mérite d'être su. Bertrand Godin, comment il est venu l'idée dans sa tête d'être un coureur automobile un jour?
Bien, c'est certain que l'environnement dans lequel on vit au monde, avec des parents passionnés, mon père, c'est un passionné d'automobile, mais n'empêche que c'est vraiment lorsque j'ai vu Gilles Villeneuve remporter le Grand Prix du Canada en 1978. Avant ça, bon, j'allais à Granby, aux courses sur terre battue. Mon père avait un de ses amis, Germain Goyette, puis j'avais une petite brouette, je l'avais peinte aux couleurs 0-5. Et puis ben, je faisais mes courses. J'étais un amateur de Michel Vaillant aussi. Donc, tout tournait autour de ça. Puis j'étais un gars performant. J'étais un gars qui aime performer, qui aime me donner à fond. Ça ne veut pas dire que performer, ça va fonctionner. Par exemple, au baseball, ben, quand j'avais été au stade olympique avec mes grands-parents, puis j'avais vu le stade, c'était à l'époque de Gary Carter, de Steve Rogers, d'André Dawson. J'étais tombé en amour avec le baseball, puis je me suis dit, hey, ça, j'aimerais ça faire carrière dans le baseball. Fait que je m'étais inscrit au club de balle de softball de mon village à Sainte-Hélène-de-Bagotte à l'époque. Et puis, j'avais le numéro 8, Gary. et puis, à un moment donné, j'ai dit, ben, je vais aller dans un camp d'entraînement. Là, j'arrive au camp d'entraînement, je me donnais à fond. Là, je frappais la balle le plus fort que je pouvais, je lançais le plus fort que je pouvais, je courais mes poumonnés. Là, un moment donné, le coach m'a dit, viens ici, toi. Là, je m'en vais le voir. Là, il dit, c'est beau de te voir aller. Il dit, on voit que t'aimes ça, tu te donnes à fond, mais il dit, pense pas faire carrière là-dedans parce que t'es vraiment nul. Puis c'est vrai, j'avais de la misère à lancer la balle au deuxième but, que la balle traverse l'avant-champ quand je frappais.
C'est incroyable qu'on puisse dire ça à un enfant, t'es vraiment nul, tu penses pas faire carrière. Ah ouais. Et pourtant.
Disons qu'il y avait beaucoup de travail à faire.
Ouais.
il m'a dit continue de jouer pour t'amuser, mais pense pas en faire une carrière là-dedans. Là, ouais. Donc, puis j'ai continué de jouer au baseball, puis mon rêve c'était de jouer avec les expos. Puis c'est drôle hein, comment la vie peut amener les choses. Un jour, je reçois un appel de la société SLA qui vient en aide à la maladie de Lou Gehrig. Ouais. Puis elle me dit on fait un match de softball, puis ah oui, ah, ben, super, je veux y aller. J'ai dit qui va être là? Ben, elle dit moi je suis une ancienne des expos. Elle dit donc il va y avoir Steve Rogers, Charlie Lee, wow. Crow Marty, André Dawson. Donc j'ai joué avec Pedro Martinez, imaginez-vous, avec Philippe Alou comme coach. Donc des fois on se dit je veux vivre des rêves, mais je pense que c'est un petit peu ça qui me caractérise, c'est que lorsque j'ai un rêve, ben je me considère très privilégié.
Ouais.
J'y touche, mais je pense qu'il faut avant tout y croire. Bon, j'ai pas joué dans le baseball majeur, mais au moins j'ai joué avec mes idoles de jeunesse.
T'as joué avec les expos. Est-ce que toi, étant jeune, est-ce que t'étais quelqu'un qui était dopé à l'adrénaline? Je sais pas, moi, tu faisais des mauvais coups, t'avais l'adrénaline, puis tu dis waouh, tu sais, quelle belle sensation, l'adrénaline. Fait que c'est sûr et certain qu'un jour, je vais faire un sport qui me procure cette adrénaline-là.
Ben, c'est certain que je recherchais ça parce que je me chronométrais en tournant le gazon. Je faisais toutes les choses comme ça. Donc, pour moi, ben, tout était un challenge. Et puis bon, regarde, à l'époque, on était Oh, ouais, disons que ma première voiture, je l'ai pas eu longtemps non plus, parce que justement, lorsque tu es tellement passionné par ça, puis le sport automobile étant un sport tellement inaccessible
Ouais.
qu'à l'époque, pour moi, c'était comme à peu près impossible. Et puis, j'ai acheté ma première voiture, j'avais 17 ans. Et puis, c'est drôle parce que, ben, c'est drôle, c'est pas drôle. Hein. J'ai eu ma première voiture 9 jours. Hein. Donc, en voulant impressionner un copain, vendredi soir, j'avais même pas pris ma voiture dans la semaine parce que ça prenait trop d'essence. Donc, je m'étais dit, à fin de semaine, je vais me payer à la traite. Donc, j'embarque dans l'auto, j'arrive au travail, Martin voit l'auto, il dit, waouh, Bertrand, super bolide, hey, je veux que tu viennes me montrer comment ça marche. Hey, pas de problème, je vais te montrer comment ça marche. Fait que 170 km heure dans un petit chemin de campagne, et ça a été un vrai miracle que ça vire pas au drame, cette affaire-là. On est sorti de la route. Et puis, on est rentré dans le fossé en faisant l'hélice, c'est-à-dire du devant au derrière. Donc, la voiture faisait une roulade. Donc, c'est ça qui a amorti le choc, qui a fait en sorte qu'on s'en est sorti indemne. Quand la voiture s'est immobilisée, j'ai regardé tout de suite Martin, puis par miracle, il était pas blessé, mais il était impressionné. Il était très, très impressionné. Mais tu sais, quand t'es jeune, t'as pas d'expérience,
Ouais.
l'innocence de croire qu'il y a rien qui va t'arriver, eh bien, ça a été ma première leçon de conduite. Puis, tellement innocent que, puis je suis un gars positif de nature, je me suis fermé les yeux, puis je me suis dit, peut-être la voiture est pas trop endommagée. Quand j'ai débarqué, la voiture était pliée en deux. Ça a été
Ouais.
ma première leçon de conduite. L'adrénaline, faut qu'elle soit maîtrisée. Puis c'est le message que je donne. Merci, bon Dieu, de m'avoir permis de m'en sortir indemne et surtout mon ami, parce que il y en a qui s'avèrent au drame. À l'époque, c'était une époque complètement différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, on essaie d'encadrer beaucoup plus nos jeunes. Et puis, heureusement, il y en a encore, malheureusement, mais heureusement, on a diminué ce fléau-là.
Ouais.
Parce qu'on a invité les jeunes à aller sur des circuits de course. Puis je regarde, par exemple, à Saner, pas loin de chez nous, bien, les vendredis soirs, les jeunes vont essayer leur voiture dans un encadrement. Puis à l'époque, on n'avait pas ça.
C'est ça. Mais
Et
ça
puis.
bouge encore. Puis, tu sais, on a tous fait des erreurs quand on était jeune, mais l'important, c'est qu'on a appris de ça. Quand on est plus vieux, qu'on
Oui.
raconte ça, des fois, on se sent mal à l'aise, mais en même temps, il faut replacer les choses dans le contexte. Est-ce que toi, tu as commencé à faire de la course automobile ou tu as commencé avec le karting?
Ah, j'ai commencé avec le karting parce que le karting, ben justement, quelques semaines après l'accident, c'était l'anniversaire de mon grand copain Serge, c'est comme mon frère, donc je l'ai invité à aller faire du karting. Puis là, premier virage, là, ça a été là, le coup de foudre. J'ai dit aïe aïe. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des karts à vendre. Là, je me suis dit, j'en veux un. Puis c'est ça qui arrive, hein. Quand tu veux quelque chose, ben, tu le partages avec les autres. Puis je le partageais avec Serge. Je disais, hey, si je m'en achetais un, il me disait, bonne idée. Fait que je suis arrivé à la maison, je disais, hey, les parents, j'ai une bonne idée, je vais pas m'acheter un kart de compétition. Ils ont dit, t'es-tu tombé sur la tête? Oublie ça, t'as eu ton char 9 jours. Et puis, faire du sport automobile, oublie ça, Bertrand. Il y en a trop des gens qui veulent faire ça, c'est inaccessible. Mais là, j'ai eu un grand dilemme. Et j'ai réfléchi pendant quasiment 3 mois en me disant, je l'achète-tu, je l'achète pas. Et puis, finalement, au bout de 3 mois, j'ai décidé de l'acheter en cachette. J'ai attendu d'avoir 18 ans pour pouvoir l'acheter. Comme ça, je me suis dit, je suis majeur. Mais c'est la première raison que je vais donner à mes parents.
Tu faisais quoi comme travail?
Donc, mon père?
Non, toi, tu faisais quoi comme travail pour
Ah,
pouvoir t'acheter un
moi,
kart?
je servais de l'essence à
Ah.
l'époque dans une station-service. J'avais travaillé au Harvey, j'ai travaillé au Cocombe à 2 piastres de l'heure. Donc, j'avais ramassé des sous. Et malgré la démolition de ma voiture, et puis mon père avait vendu quelques pièces de la voiture qui m'avait permis de m'en sortir pas trop pire là, au niveau économique. Et puis, mais là, quand j'ai décidé de l'acheter, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que mon père va dire? Puis là, mon père était assez sévère. Puis je me suis dit, ah, je vais l'acheter en cachette. Quand mon père est parti travailler, il travaillait de nuit. Donc, j'étais allé chercher le kart. Je l'ai ramené à la maison, je l'ai mis sous l'établi. En sachant très bien que mon père, quand il reviendrait le lendemain matin, que ça irait pas bien. Et à 6 heures du matin, tu dors pas, là, t'entends mon père monter, il marche, là, j'ai dit, oh, ça y est, ça va brasser. Et là, il rouvre la porte et dit, hey, on va-tu l'essayer? Fait que là, je me suis dit, ça, des fois, on s'en fait beaucoup trop pour ce que les gens vont penser. Je pense que quand on a un rêve, puis mon père m'a dit, ben, garde, Bertrand, c'est simple, c'est ton choix. T'as décidé de faire ça, c'était bien. Mais il dit, on va te donner un conseil, c'est compte pas sur nous pour t'aider là-dedans.
OK. Est-ce que
Puis c'est.
tu regardais Jules Villeneuve à la télé à ce moment-là?
Ah ben oui,
Ouais.
ben Gilles Villeneuve, c'est ça. Quand il a gagné en 1978, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, moi, c'est ça que j'aimerais faire. Tu sais, quand j'ai vu Gilles Villeneuve prendre le drapeau à damier dans ses mains, je me suis dit, waouh, que c'est beau de pouvoir pousser une voiture de course. Ça amenait toutes sortes de valeurs que j'aime. J'aime la technologie,
Ouais.
j'aime le fait de comprendre, d'être en harmonie avec une voiture. Parce qu'une voiture, quand tu es au volant, c'est comme si c'était un vêtement qui que tu te sens tellement bien, surtout dans une voiture de course avec un siège moulé. Pour moi, c'était ça que je voulais faire, mais je le savais que les chances de pouvoir en faire une carrière, c'était mince. Mais je me suis dit, je le fais pas pour faire nécessairement de carrière. Je le fais pour avoir du plaisir à faire du sport automobile.
Ouais.
Puis on verra où ça m'amènera.
Puis en karting, est-ce que tu progressais à un point tel que les gens t'ont dit, Bertrand, tu devrais peut-être pousser la machine plus loin?
Ma première course. Ma première course, j'arrive là, puis tu sais, pendant tout l'hiver, je me suis préparé mentalement. J'ai regardé des cassettes vidéo de comment les pilotes négociaient le virage, puis tout ça. Puis j'étais très, très dans ma tête, là, c'est comme si j'avais été en Formule 1. Là. Quand je suis arrivé là avec ma boîte de carton, mon tournevis, ma paire de pinces, là, j'étais pas trop, trop équipé. Et puis j'ai débarqué le kart avec mes chums. Et, je me suis fait passer tout bord, tout côté. J'ai fini avant-dernier, puis avant-dernier, parce que le dernier, son moteur n'avait pas parti. Donc, c'était vraiment nul comme résultat. Puis là, je me suis dit, ben, OK. Puis je le savais que quand j'ai embarqué pour cette course-là, que j'avais des choses à apprendre. Mais quand je suis revenu à la maison, mes parents m'ont dit, puis comment ça a été? Ben, j'ai fini avant-dernier. Ils ont dit, ouais, on te l'avait dit, ça serait pas facile, mais. Et la préparation là-dedans, c'est pas juste le pilotage. T'sais. Il y a beaucoup du bolide. Puis là, ben, en démontant mon bolide, mon kart, je me suis rendu compte que j'avais fait ma première course avec les freins qui étaient collés. Fait que je me suis donné une chance, puis je suis retourné. Et la deuxième course, ben, j'étais tout seul de ma gang. Et puis là, ben, je me fais passer à droite, à gauche, je fais mon premier dépassement. Puis ça allait bien. Je remontais, mais je savais pas quelle position j'étais, parce que j'avais personne sur le bord de la piste pour me dire, Bertrand, t'es cinquième. Puis on avait vite fait là, de tout être mélangé ensemble. La course se termine, le directeur de course vient me voir, il me dit, waouh, Bertrand, deuxième course à vie, première victoire, vous venez de gagner la course. Je me retrouvais sur le podium avec le trophée d'un main. Quand je suis arrivé chez nous, puis j'ai mis le trophée sur le bureau, je me suis dit, un jour, le bureau va être rempli de trophées.
OK, tu faisais déjà de la visualisation à ce moment-là, là.
Oui, ben oui, parce que, tu sais, si tu es capable de visualiser que tu es sur une Formule 1 alors que tu es sur un Massey Ferguson en train de tondre le gazon, c'est certain que pour moi, ben, la visualisation a fait partie
Ouais.
de ma vie. Puis plus tard, un psychologue sportif m'a dit, Bertrand, la visualisation, c'est magique. Il dit, la plus belle chose qu'on peut visualiser, c'est comment on veut être. Lorsqu'on visualise ce qu'on veut devenir, ben on va faire des petits pas, puis on va se diriger vers ça. Puis ça m'a tellement servi. Ça m'a servi parce que, tu sais, je regarde tout ce cheminement-là qui s'est fait. Parce que oui, c'est vrai que le bureau a été rempli de trophées. Mais après ça, ben, monter dans une autre catégorie, la dernière saison de karting en 91 m'avait coûté 5 000 $. Mais pour aller en Formule Ford, ça coûtait pas loin de 100 000.
Oh boy.
Donc,
OK.
c'était un grand, grand défi.
Donc pendant que tu faisais du karting, bon oui, tu gagnais, mais ça coûtait extrêmement cher. Tu continuais de travailler au travers de ça. Est-ce que tu disais à tes parents que tu voudrais peut-être faire carrière là-dedans parce qu'ils t'encourageaient?
Ouais, ben, il m'encourageait pas vraiment. Mon père m'a pas encouragé plus que ça, ma mère non plus. Puis je suis content. Il était fier de moi, là. Okay, on s'entend, on est fier de nos enfants, mais malgré que mon père aurait beaucoup aimé être pilote de course, non, mon père, c'était comme, vas-y, fais tes affaires, et
Okay.
puis
Mais
j'ai pas eu la pression de mes parents.
t'as commencé le karting en 86, puis à un moment donné, tu t'es dit, bon, ben, c'est le temps pour moi de passer à un stade supérieur. Tu t'es dit, je m'en vais en Europe. Est-ce que tu avais des millions de dollars accumulés quand tu es parti là-bas?
Hey, non. Non, parce qu'on cherchait des opportunités de pouvoir piloter. Parce que, c'est simple, pour faire carrière, il faut que soit que tu aies des parents archimillionnaires, que tu aies un nom extrêmement célèbre qui va pouvoir peut-être t'emmener des compagnies qui vont te commanditer, ou bien d'être à la bonne place au bon moment. Et pour moi, c'était ça, d'être à la bonne place au bon moment, parce que avec René Fagnan, journaliste automobile, qui est un ami à moi, ben. Il m'a dit, écoute, Bertrand, il y aurait Spénard David, mais tu gagnes une course. Par contre, en Europe, si tu fais Elf Winfield, ben, Elf Winfield, Jean Alesi, Patrick Tambay, Alain Prost, tous ces pilotes-là sont issus de la filière Elf, de Elf Winfield. Et là, ben, c'est sûr que ça coûtait 8 000 $ pour faire le cours et participer justement au concours, si on veut. Mais il y avait 450 pilotes qui voulaient avoir ce volant-là. Finalement, ben, mes parents, sont parole, ils m'ont. Quand je leur ai dit j'ai besoin de 8 000, ben, j'ai dit, garde, je te l'ai dit, compte pas sur nous autres pour t'aider là-dedans. Donc, je suis allé à la Banque nationale, Saint-Pie, rencontrer Bertrand Lemay, qui était le directeur de la banque, pour lui mentionner mon projet, comme quoi je voulais aller faire un volant, ça coûtait 8 000 $. Puis là, j'ai expliqué tout ce que j'avais fait à karting. Puis j'ai dit, vas-y, mon Bertrand, signe fort, trois copies en bas, je pars avec mes 8 000 pour aller faire le volant Elf Winfields. En plus de ça, sur la Côte d'Azur, c'était magique. Mais quand je suis arrivé là, hein, de voir des pilotes d'Europe, de partout en Europe, du Japon, de l'Australie, là, je me suis dit, comment je vais faire pour me démarquer? Et puis, finalement, il y avait une portion qui se faisait en avril et l'autre en novembre. Et en avril, dans le cours de base, à un moment donné, il y avait des règles. Je me suis dit, ah, là, je vais laisser y au moins un tour. J'ai poussé bien au-delà de la voiture. Et puis, Simon Deletour, qui était le chef de l'école, il est venu me voir, il m'a dit, je comprends que dans votre pays, vous appréciez Gilles Villeneuve, mais ce n'est pas une raison pour conduire comme ça ici. Si tu me refais ça, t'es dehors. Et là, donc, je me suis dit, pas de problème, je vais leur montrer que je suis sage, que je suis capable de respecter ce qu'il m'a dit. Mais j'avais eu ce que je voulais, c'est-à-dire sentir la limite de la voiture. Donc, quand j'y ai retourné au mois de novembre, ben là, il y avait des éliminations. De 450, on passait à 25. Et j'ai été sélectionné dans les 25 plus rapides. Mais là, c'est pas rien, parce que des 25 plus rapides, c'était la demi-finale, j'ai été le plus rapide. Donc, je me suis retrouvé directement en finale, favori pour l'emporter. Et puis là, je me suis mis à y croire. Puis le matin de l'épreuve, c'était 10 tours de piste chronométrée. Il n'y avait plus un petit peu, puis j'avais choisi de passer le dernier des cinq. Et puis, dans l'optique que la piste serait meilleure, finalement, oui, la piste était meilleure, sauf qu'on avait gardé les pneus pluie qui étaient complètement ravagés. Et j'ai poussé à la limite la voiture, mais j'étais 3e sur 10 tours plus lent que celui qui était le plus rapide, Jason Engel. Et je me suis retrouvé à perdre le volant Elf. Ça a été une grosse claque. Vraiment, ça a été tough parce que j'en pleurais. Je venais de passer à côté du rêve de ma vie et je suis revenu au Québec travailler pour payer mes 8 000 $. Je travaillais à l'époque chez Duval Toyota à Boucherville pour l'entretien des véhicules. René me rappelle, il me dit, écoute Bertrand, il dit, un autre volant, le volant Max Auto au nord de Paris à Montlhéry. Et là, c'était 3 000 $. Puis là, ben, la banque était hors de question qu'ils me reprennent de l'argent. Sauf que il y a des grands-parents. Et mes grands-parents avaient vraiment la fibre de l'économie. Donc, ils avaient mis de côté de l'argent quand je suis venu au monde. Puis, dans le temps, il y avait beaucoup d'intérêt dans les années 80. Et puis, ça montait au montant de 2 800 $. Donc, j'avais l'argent pour aller faire le volant. Je suis parti là-bas. Et tu sais, des fois, dans la vie, il nous arrive des choses qu'on voit une défaite comme un échec. Mais en y repensant, le volant Elf a été une bonne leçon d'humilité. Et quand je suis arrivé au volant Max Auto, j'ai continué de travailler dans ma tête. La visualisation, j'étais capable de visualiser un tour et j'avais 1 seconde entre un tour réel que je faisais dans la voiture puis un tour que je m'imaginais. Donc c'était clair, net et précis dans mon esprit. Et puis, ça a été le même processus. De 350, j'ai passé à 25. De 25, j'étais le plus rapide. Mais quand je suis arrivé en finale, j'ai donné le tout pour le tout. Et puis, on a remporté le premier volant Max Auto, Mégane Max Auto. Et Mégane, qui était un constructeur à l'époque, ben, me permettait là, de pouvoir devenir pilote d'usine.
Ouais.
C'était quelque
Ça,
chose.
l'écurie Mégane, c'était en Formule Ford.
Ouais,
OK.
puis là, ben, c'était bien beau tout ça, là, parce que, tu sais, j'avais Stéphane Gabriélé, j'avais René Fagnan, j'avais Gilles Boursier aussi de la presse, qui eux autres cherchaient de l'argent pour que je puisse vivre en France. Puis il y avait des compagnies qui avaient dit, écoute, si jamais Bertrand gagne le volant, ben, on va emmener du financement pour qu'il puisse vivre en France. Fait que, quand je suis arrivé avec le trophée et puis le prix d'une saison complète, ils nous ont dit, coucou, c'est la récession, on pourra pas t'aider. Fait que là, c'est là que j'avais un gros, gros problème. Là, je me suis dit, je pars-tu en Europe ou je pars pas en Europe. J'avais seulement 200 $ après avoir payé mon billet d'avion. Le stress que j'avais à l'aéroport Mirabel quand je suis parti, bon, j'avais un billet ouvert qui me permettait de revenir. Quand je suis arrivé à Vichy et que Bertrand Decoster est venu me chercher, il m'a dit, alors, où tu pioles ce soir? Ben, j'ai dit, je ne sais pas trop, parce que là, il me reste à peu près 100 $ parce que j'avais payé le train pour y
T'es parti en Europe
aller.
avec 100 piastres dans les poches.
Eh oui. Mais, tu sais, on parle beaucoup d'argent. La plus belle valeur qu'on a, c'est les gens autour de nous. Et puis, Bertrand de Coster, il a dit, bon, ben, viens-t'en à la maison et on va trouver une solution. Le lendemain, on a parlé au commanditaire Max Auto, qui était une chaîne de réparation automobile. Puis on dit, quoi, t'es venu ici t'es parti du Québec avec 200 $, ben, ça donne bien nous autres ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui veut, puis tu vas voir Bertrand, on va trouver une solution, tu vas la faire ta saison. Sauf que, tu sais, de rester chez Bertrand de Coster, je me sentais comme un imposteur, puis je me souviens souvent, le soir, j'allais prendre une marche. Pour les laisser en famille. Puis je me disais si je pouvais me péter un bras ou une jambe pour revenir. Tu sais, c'était comme si je pouvais pas me dire, ben c'est simple, je reprends l'avion ou je reviens chez nous. Tu
Ouais.
sais, c'était comme si je pouvais. Fallait que ce soit le destin qui décide. Et puis le destin a bien décidé parce que par la suite, Max Auto m'ont trouvé un petit appartement. Et là, ben, ils m'ont donné une mission. C'est-à-dire qu'ils me donnaient 500 francs par point marqué au championnat. 500 francs, c'est l'équivalent de 100 piastres. Donc, ça me permet de me payer mon spaghetti, de payer mon épicerie, de pouvoir aller faire mon lavage à buanderie. J'avais pas de voiture. Je marchais 10 km pour aller à l'usine parce que, bon, les mécaniciens, toute l'équipe, les ingénieurs étaient là pour préparer la voiture. Mais que j'étais le gars le plus heureux d'être le pilote de la voiture Mégane Max Auto,
Fait que
ça a été pour moi.
les gars qui préparaient ta voiture, puis qui te disaient ça, c'est le pilote, ils étaient tous plus riches que toi à cette époque-là.
Ah, tabarouette, oui. Non, non, c'est faux parce que je pense que c'est pas le montant d'argent, c'est le fait d'aller chercher le statut que je voulais aller chercher,
Ouais.
c'est-à-dire de devenir un pilote professionnel, de survivre de ça, parce que je ne vais pas vivre, mais de survivre de ça. Puis l'autre affaire qu'il faut penser, c'est que j'avais pas d'assurance. Et si je me blessais en course ou quoi que ce soit, là,
C'est fini.
c'est fini, là. Ça m'aurait ruiner mon futur aussi. Donc, c'est un grand risque.
OK, on pensait pas à ça. Tu sais, ouais, j'étais persuadé, moi, que c'était une obligation de la part des écuries de fournir tous les besoins du pilote. Dans le cas où le pilote se blesse, bien entendu qu'on va payer pour qu'il puisse aller à l'hôpital et tout ça. Vous aviez pas ça.
Non.
Eh boy.
Non.
Avec
Non,
du
non.
recul, dans le temps, tu t'en rendais pas compte parce qu'on était jeunes et cons, mais avec du recul, on dit Tabarouette, ouais, tu sais qu'on avait à la tête.
L'innocence a une certaine valeur qui nous permet vraiment de faire des choses qu'on ne ferait pas. En tout cas, je repense à ça aujourd'hui.
Mais
J'étais un petit peu moins innocent,
ouais,
mais toujours aussi passionné.
mais t'as été champion en France, t'as été vice-champion aussi, t'as fait beaucoup d'exploits. Quand est-ce que t'as réussi à faire ta marque en Amérique du Nord à ton retour?
Ah, ben c'est certain que le fait de gagner avec un châssis Mégane qui avait jamais remporté de victoire, ça a été quelque chose qui a été marquant en France. Mais quand je suis revenu après deux titres de vice-champion, la troisième année, là, j'aurais dû être champion. On a remporté trois courses, trois deuxièmes positions, deux troisièmes et deux pires résultats, c'était deux quatrièmes places. Mais il y avait un décompte de pointage. Donc, il fallait décompter nos deux pires résultats. Et mon adversaire, lui, décomptait une 12e place puis un abandon. Moi, je décomptais deux quatrièmes places. Et
Ah.
c'est comme ça qu'il a, par quelques points, gagné le titre. Mais au-delà de ça, la bataille a été tellement mémorable parce que ça jouait dur, là. On se donnait des coups de roue. C'était, même je l'ai fait lever dans les airs au Paul Ricard. Mais quand on est revenu, là, j'avais plus rien. Et j'avais été à Nazareth, en Pennsylvanie, voir la course IndyCar. Jacques Villeneuve courait en IndyCar à l'époque. Il y avait Greg Moore en Indy Lights avec Claude Bourbonnais. Et puis, j'avais rencontré Jean-Claude Torquia en lui disant, bon, ben, j'aimerais ça peut-être faire Montréal en pont de l'Atlantique. C'était possible d'avoir un petit budget de la part de Players. Et finalement, je savais que mes chances étaient minces. Quand je suis revenu, on apprend que Claude a eu un accident grave. S'est cassé une vertèbre cervicale.
Ça, c'est Claude
Il est
Bourbonnais.
vraiment... Ouais, Claude Bourbonnais. Hein. Et donc, là, moi, jamais j'aurais pensé remplacer Claude. Le mercredi d'après, Jean-Claude Torquia de Players m'appelle. Il me dit, écoute, Bertrand, il dit, que penses-tu de l'Indy Light? Oh, j'ai dit, c'est une belle série. Entre une Indy Light, là, puis une Formule Ford, il y avait 400 chevaux d'écart, des gros pneus, ça de large, des gros ailerons. Donc, je pensais jamais, mais là, à un moment donné, les rumeurs ont commencé à se faire aller en disant, ouais, Bertrand Grenin pourrait remplacer Claude Bourbonnais. Et là, j'étais comme ça, un nuage. Mais là, ils ont fait un test à Putnam Park, dans la banlieue d'Indianapolis. Et là, j'arrive là, moi, puis là, il y avait des pilotes comme Trevor Seaver, qui lui en avait fait de l'Indy Light. Il y avait des pilotes, Bruno Bianchi, il y avait Martin Guimond, il y avait des sacrés pilotes là-dedans. Et là, ben, je me suis dit, OK, ma stratégie va être simple. Je vais prendre le temps de bien sentir la voiture. Puis c'est fou, là. Une Indy Light, là, quand tu mets ça en première, là, t'accélères, la tête te fait ça. Tu sors en deuxième, la tête te fait ça. En troisième, la tête te fait ça. En quatrième, cinquième, ça fait ça. Là, tu te dis, waouh, ça marche donc bien, cette affaire-là.
Ouais.
Puis là, avec l'appui aérodynamique, ça colle tellement que tu arrives à 300 km/h. Puis là, le freinage est phénoménal. Finalement, ben, j'ai fait mon meilleur tour au dernier tour de mon essai. Et puis là, ben, j'ai reçu un appel de Neil McElride de Foresight qui me dit, écoute, Bertrand, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. J'ai dit, commence par la bonne. Il dit, non, je vais commencer par la mauvaise. Et il dit, tu seras pas dans la voiture pour Milwaukee parce que c'est un ovale, donc on va mettre Trevor Seaver dans la voiture. Mais tu vas être le pilote de la voiture numéro 33, Players, en Indy Light à Détroit. Hey, je me souviens, je raccroche le téléphone, je sautais dans les airs. Je viens de gagner le million, moi, là.
Ben
Et là, je me souviens encore, je suis assis sur le lit, puis là, je commence à me dire, wow, attends un peu, je vais arriver là, moi, avec 3 heures d'essai. Comme des pilotes qui connaissent la voiture, Greg Moore, il avait tout sur son passage cette année-là, il gagnait tout. Il y avait Robbie Buell, il y avait Mark Hotchkiss, il y avait Pedro Chavez, qui est
ouais.
un ancien de la Formule 1. J'arrive à Détroit. Okay. Ben, j'avais fait un autre essai à Putnam juste pour un rookie test pour que je puisse avoir le droit de piloter. En qualif, j'étais à 6 secondes de Greg Moore. Je te dis, j'étais plus près de chez nous que de la pole position. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, qu'est-ce que je fais là? Et même les gens riaient de ma performance, puis ils avaient raison. Mais ce que je comprenais pas, l'ingénieur me disait, faut que tu freines plus tard. Mais j'ai dit, ça se peut pas, j'allume les freins déjà. Mais une voiture aileron, quand tu n'es pas habitué, ben, tu freines progressivement, comme une voiture normale. Mais une voiture aileron, plus tu vas vite, plus la voiture est collée au sol par l'appui aérodynamique. Donc, c'est quand tu mets le pied sur le frein que tu as le maximum de freinage. Fait que si tu freines en progression, c'est pas bon, il faut que tu tapes dedans le plus fort possible. Et plus la voiture ralentit, plus il faut que tu relâches le frein. Mais là, à Détroit, je peux pas faire ça. Il y a des murs tout le tour. Si je l'essaye, je m'étampe. Puis surtout que la voiture avait eu des accidents depuis le début de saison. La 33 était maudite. Même Trevor Siebert à Milwaukee avait percuté le mur. Donc, Michael Wright m'avait dit, toi, Bertrand, tu ramènes l'auto. Il dit, si tu vois Greg Moore arriver dans tes rétros, tu te tasses, tu le laisses passer. C'est-tu clair? Oh, j'ai dit, oui, c'est clair. Finalement, Greg Moore m'a pas pris un tour. J'ai progressé durant l'épreuve, si bien que j'avais remonté quand même de quelques positions. Puis ils m'ont dit, bon, ben, tu as fait une bonne job, tu as ramené la voiture, tu vas être à Portland. Et là, Portland, c'est un circuit où tu peux te permettre ce genre d'essai-là. J'avais une longue ligne droite, on arrivait à 310. Là, j'ai dit, va trop bien l'essayer, le freinage. Je freine à fond, je pars en tête à queue, je fais 3, 2, 3, 3, 1, 360 degrés et la voiture s'arrête là. Donc, je remets du répartiteur sur l'avant, j'avais trop de frein sur l'arrière, ça avait fait comme si tu donnais un coup de fer à main. Et là, premier essai libre, 9e. Wow, Bert, top 9. Puis après ça, première qualif, 5e. Puis là, on arrive dans la deuxième qualification, 3e à 4 dixièmes de Greg. Et là, Neil McElroy vient me voir, il me dit là, en course défense, d'essayer de doubler Greg. Donc, c'est là que j'ai signé avec Players pour l'année 96.
Ouais. Là, rassure-moi, tu
Ben,
réussissais à gagner ta vie avec ton métier à ce moment-là, là.
là, écoute, j'avais un contrat de 25 000 $. J'étais riche en tabarouette. Écoute, quand je suis revenu en France, j'étais obligé de demander à ma blonde de m'emmener à Radio-Canada pour commenter une course de Formule 1. J'avais pas de voiture.
Ben voyons. Mais tu comprends que nous autres, de l'extérieur, on avait l'impression que vous étiez tous multimillionnaires. Hein?
Et tabarouette, oui. Ça, c'est dans les rêves les plus fous. Mais c'est sûr qu'on voit des pilotes comme Lewis Hamilton ou
Ouais.
Charles Leclerc ou ces pilotes-là, là, tu te dis, OK, ils gagnent quand même des bons montants parce qu'ils ont atteint une réputation et en même temps, ben, sont entourés de gens archimillionnaires. Et là, à ce moment-là, tu as un salaire comme nous, on l'a eu avec Players, parce qu'en fond de l'Atlantique, courir en Atlantique, c'était quand même 1,2 million par voiture. Donc, ça veut dire que Players mettait 1,2 million pour me faire courir, puis me donnait un beau salaire là, qui était dans six chiffres. Quand même, on était très, très, très gâtés
Ben oui, à
de
l'époque.
pouvoir vivre ça, là.
Ouais.
T'sais, mais c'est ça, on est loin d'être des millionnaires, là.
Donc, tu étais à 25 000 piastres par année. Est-ce que la dangerosité, tu es conscient de ça quand tu es dans le véhicule?
Pas vraiment, parce que oui, on sait qu'on fait un sport dangereux. Mais quand on fait un sport dangereux, et bon, premièrement, ça demande des connaissances, ça demande aussi beaucoup de facteurs humains. T'sais, je dirais que ça demande beaucoup de respect. Tu n'embarques pas dans une voiture en disant que c'est l'émotion qui va te piloter. Il faut que tu saches contrôler ton émotion avant même de contrôler la voiture. Tu es tellement dans ta zone. Pour te donner une idée de cette situation-là, on ne s'appartient plus quand on est dans l'auto. Je me souviens à Barcelone en Formule 3000, dernier tour de qualif, dernier virage.
Ouais.
Puis je venais faire un super tour, là. Il me restait juste le dernier virage, puis la voiture était légèrement sous-vireuse, c'est-à-dire le devant ne veut pas tourner trop, n'était pas assez directionnel. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais toucher le vibreur, puis en touchant puis je vais quand même réussir à passer. Mais quand j'ai touché le vibreur, toute ma moustache avant s'est arrachée. Et là, j'ai tombé plus d'aileron avant, donc la voiture est allée directement dans le bac à gravier. Puis là, dans le bac à gravier, la voiture n'est pas supportée par les roues, elle est supportée par le dessous de la voiture. Donc, la voiture glissait. Puis là, j'ai vu le mur arriver à une vitesse. Je me suis dit, ouais, d'après moi, je vais prendre connaissance sur ce coup-là. Mais bien calme. Puis quand la voiture a percuté le mur, la voiture tournait sur elle-même. Puis dans ma tête, je me disais, peut-être la zone de chronométrage est pas loin, je vais enregistrer mon temps quand même. Donc, c'est ça, on s'appartient plus. On
Non, c'est ça.
est dans une mission.
OK. Non, j'aime ça entendre ça. J'aime ça entendre ça. Quand il arrive des accidents, tu parlais de Greg Moore, décédé à 24 ans, c'est épouvantable. Est-ce que ça vous joue dans la tête, ça?
Ben, c'est certain que oui, puis quand on fait l'analyse de ça, l'accident de Greg, il y a énormément de facteurs humains là-dedans.
Ouais.
Premièrement, ben, il y avait eu son accident de scooter la veille où il s'était fracturé une main. Il n'avait pas pu qualifier la voiture. Les docteurs qui lui ont donné quand même le go de courir le lendemain. Et Greg Moore venait de signer avec Penske. Et pour le punir, Jerry Forsythe avait congédié son ingénieur de piste, Steve Challis, qui était ni plus ni moins la maturité de Greg. Et Greg a voulu gagner la course de 200 tours dans les 5 premiers tours. Et puis, juste avant la perte de contrôle, il avait dit à la radio, ah, je vais à gagner pour vous autres, les gars. Et là là. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas penser à l'enjeu quand tu pilotes. Tu ne gagnes pas une course en pensant première place. Tu gagnes une course en appréciant le prochain virage, en acceptant le challenge de ceux qui vont t'attaquer, d'être fin stratège pour gagner des places tout en économisant la voiture. Pour gagner une course, il faut premièrement finir.
Est-ce que tu l'avais connu personnellement, Greg Moore?
Oui, parce qu'en 95, je suis devenu son coéquipier quand j'ai
Ouais.
remplacé Claude. Donc, et Greg a été champion cette année-là en 95 en gagnant 9 courses je pense qu'il y en a une qui n'avait pas gagné. Je pense que c'est Détroit d'ailleurs qui avait terminé deuxième derrière Robbie Buell. C'était un pilote vraiment doué pour son âge, mature comme je le disais, mais la maturité venait vraiment de son entourage, de son père et de Steve Challis qui était là pour l'appuyer et puis le ramener à l'ordre dans des situations comme il l'a vécu à Fontana.
Puis, mais quand
Mais il
vous
n'était pas là.
conduisez, mais c'est ça, mais quand vous autres vous conduisez après, t'sais, après le décès d'un pilote que vous avez connu, veux pas, ça doit rester dans votre tête. Vous apprenez de ça, bien entendu, comme tu me l'as expliqué, mais t'sais, la mort fait partie de votre métier aussi.
Oui, c'est vrai. Mais c'est comme si, oui, ça s'enlève pas. C'est un sport tellement spécial parce que, oui, on sait qu'on met notre vie, hein, dans une situation à risque, mais en même temps, c'est cet équilibre-là, qui fait en sorte qu'on apprécie ce sport-là.
Ouais.
On l'apprécie parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, pour bien des raisons. Et en même temps, aujourd'hui, quand j'embarque dans une voiture, ben c'est ça, je prends rien à la légère. Ça prend une bonne équipe, ça prend une voiture bien préparée, ça prend des gens qui ont tous le même objectif. Puis on laisse rien au hasard. Malgré tout, si on regarde, pour vous donner une idée, il y a un pilote qui s'appelait Tadio Nuvolari. Il était, Enzo Ferrari trouvait que Gilles ressemblait un peu à Tadio Nuvolari. Puis à un moment donné, il y a un journaliste qui vient voir Nuvolari puis il dit, comment tu fais pour embarquer dans ta voiture alors qu'il y a 5 pilotes par année qui se tuent là, dans ta série? Il dit au journaliste, toi, où t'aimerais mourir? Ben, le journaliste répond, dans mon lit, dans mon sommeil. Il dit, comment tu fais pour embarquer dans ton lit? Donc, c'est un petit peu la même chose.
OK.
C'est vivre intensément sa vie. vivre en faisant ce qu'on aime, en le faisant le plus longtemps possible, bien entendu, c'est le but.
OK. D'habitude, je pose des questions que les gens dans leur voiture pourraient se poser ou les gens qui écoutent le podcast à la maison pourraient se poser. Là, je vais te poser une question pour moi, OK?
OK.
T'es sur la piste, je sais pas, moi, tu gagnes la course la plus importante de ta carrière au circuit Gilles Villeneuve, ce que tu as fait, Formule Atlantique. Puis après ça, tu embarques dans ton char personnel. Tu dois tellement être déçu dans ton char personnel.
Non, parce que j'aime conduire. J'aime conduire. La conduite normale,
Ouais.
la conduite, bon, c'est une conduite réglementaire, c'est une conduite quand même. Moi, quand je conduis, j'essaie toujours d'anticiper comment les autres vont réagir. Je suis capable de voir que, ah, lui, OK, il regarde juste devant, il regarde pas dans ses rétros. Je suis toujours dans un mode d'analyse. Donc, j'aime conduire sur la route, que ça soit à 100 km heure sur l'autoroute, que ça soit en ville, j'aime ça. C'est pour moi une passion, quoique c'est des valeurs complètement différentes lorsque tu
Ben
arrives sur la piste. Sauf que tu apprends sur la piste toutes les valeurs de conduite, de la dynamique de voiture, c'est les lois physiques qui ne sont pas enseignées malheureusement à des jeunes conducteurs. Ben ça a vraiment une importance capitale dans la prise de décision, dans ta façon de conduire. On a beau dire aux jeunes ralentissez, mais ralentir pour un chiffre, ça vaut rien. Ralentir pour avoir le temps de voir les dangers potentiels, de voir les dangers qui pourraient se développer devant, c'est ça qui est vraiment la clé du
Ouais.
succès pour la sécurité
Je
routière.
te posais la question parce que j'ai conduit une Audi R8 sur une piste d'accélération, puis j'ai senti l'accélération, une accélération incroyable, puis l'adrénaline qui montait en moi. Puis après ça, une fois qu'on a laissé la Audi R8 là, qui est retournée à son propriétaire, j'étais embarqué dans ma voiture, puis j'avais l'impression de vivre une détresse psychologique, là. Je me suis dit, mais comment on peut.
Ah oui, non, c'est certain que entre vivre une accélération, de vivre un virage rapide
Ben
une fois ou quoi que ce soit, ben c'est une chose, mais de le vivre pendant 1 heure et demie à fond, concentré, physiquement, mentalement, c'est incroyable parce que, tu sais, pour un sport assis, tu perds quand même 7 litres d'eau dans une course. Donc, c'est pas banal. Ton cœur qui varie entre 150 et 200 pulsations minute, c'est ultra physique. Tu sors de là vraiment épuisé. Donc, quand tu embarques dans une voiture après, tu relaxes et c'est tellement facile.
Ouais. Quand t'as gagné le Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve en 1997, est-ce que tu t'attendais à ça le matin quand tu t'es réveillé, que tu allais
Écoute,
gagner ce Grand Prix-là puis tu allais triompher?
j'avais 10 ans quand j'ai gagné mon premier Grand Prix du Canada. Okay, c'était avec ma petite brouette. J'étais dans la cour d'école, puis dans ma tête, j'étais au circuit Gilles Villeneuve. Et pendant tout le début de la saison, parce que c'était ma première saison en Formule Atlantique, ma seule saison d'ailleurs en Formule Atlantique, d'habitude, c'est toujours une année pour apprendre, une année pour gagner. Et puis, la saison, bon, j'avais à apprendre le pilotage de l'Atlantique. Puis, j'avais pas eu vraiment de très, très bonnes courses. Mais je m'étais dit, Montréal, je suis prêt. Puis, à l'époque, il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Grand Prix 4. Et puis, j'avais pratiqué sur mon petit simulateur, un volant en plastique qui me permettait de piloter ce circuit. Et puis, quand on est arrivé là, ben, c'était un rêve qui devenait réalité pour moi de ce circuit Gilles Villeneuve avec les gens. Puis les gens de chez nous, parce que ça, c'est important, le partage qu'on peut avoir. Tu sais, quand on a gagné notre première course en France, ben, il n'y avait pas l'hymne national canadien, il y avait
Non,
joué la
c'est ça.
Marseillaise.
T'étais en France.
Mais je suis en France.
Puis ta famille,
Et
ta
puis, ben.
famille, tes amis, t'es pas là non plus.
Non, exactement. J'étais tout seul. J'étais tout seul de ma gang, quoique pour moi, ben mon cœur, il y en a une bonne moitié qui est en France avec les gens qui m'ont aidé, qui m'ont supporté. Sauf que là, ben, j'étais avec les membres de ma famille, les gens de mon village. Il y avait 70 000 personnes dans les estrades. Et là, on fait la pole position. Puis quand j'ai fait la pole position, pour moi, là, c'était le summum. Parce que pour moi, même faire une pole position, je trouve ça encore plus important parce que tu peux gagner une course sans être le plus rapide parce qu'il y en a qui se sont accrochés.
Ouais.
Mais pour être le plus rapide, c'est un exercice où tu travailles sur toi. Tu peux rien faire pour empêcher les autres d'être rapides. Tu peux juste travailler sur toi pour être rapide, travailler avec les ingénieurs pour faire en sorte d'avoir les meilleurs réglages. Et puis on signe la pole position. On a battu le record de piste que Patrick Carpentier avait fait l'année d'avant chez Lynx Racing. Et puis au départ, j'ai manqué mon départ, j'ai tombé troisième. Et je me suis dit, ben, ça va être juste plus fun d'en passer deux. Et donc, à la fin du deuxième tour, j'ai pris la tête pour retirer ça avec 10 secondes d'avance. Puis, mon ingénieur ne m'avait pas dit que c'était le dernier tour. J'ai vu 70 000 personnes se lever dans les estrades avec qui je partageais ce bonheur-là. Et quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, j'ai rentré la voiture dans l'étui et Jean-Guy Courcelles, qui était le signaleur officiel du Grand Prix, le signaleur en chef, il m'avait dit le jeudi, il dit, tu gagnes, je vais te donner le drapeau. Et la tradition de faire le tour d'honneur, comme Gilles Villeneuve l'avait fait en 1977, était partie. Ben, il est descendu en bas, il m'a donné le drapeau, il m'a dit, vas-y Bertrand, fais-le ton tour d'honneur. J'ai repensé au petit gars qui avait 10 ans, qui s'était dit, et que j'aimerais ça vivre des sensations comme ça. Tu sais, quand on parle de visualisation, c'en est un bel exemple. Et j'ai peut-être pas couru en Formule 1. Mais j'échangerai pas ce moment-là pour une saison en Formule 1 dans une équipe de milieu de peloton. Et même, tu peux pas échanger ça. Ça a une valeur inestimable.
Ah, c'est significatif ce que tu nous dis. Hey, on va faire une très courte pause, Bertrand Godin, puis on revient tout de suite après. On vous souhaite à tous un excellent vendredi. Restez là, touchez pas à ce piton-là.
Marceau, le soir.
Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102. On a le plaisir de passer la soirée avec Bertrand Godin qui m'a parlé de sa victoire au circuit Gilles Villeneuve, la plus importante de sa carrière. C'était dans le cadre du Grand Prix du Canada. Puis j'ai encore des frissons. Tu me disais que le jeune Bertrand Godin, 10 ans, rêvait de gagner ce Grand Prix-là. Puis t'as réussi à le faire. Est-ce que t'as, parce qu'on n'a pas parlé de ta famille, comment c'était ta famille? Tu nous as parlé tantôt de ta blonde, mais est-ce que t'as réussi à avoir des enfants au travers de cette carrière de pilote automobile? Puis est-ce que quand les enfants arrivent, est-ce que les paramètres changent un peu? C'est-à-dire là, est-ce que Bertrand va prendre autant de risques qu'avant? Puis la conjointe, hey buddy, c'est parce que t'es le père de mes enfants, ce serait le fun que tu fasses attention puis que tu reviennes avec tous tes morceaux. Y a-t-il une pression supplémentaire quand on fonde la famille?
Écoute, non, pas vraiment de pression dans le sens où Annie, ma conjointe, m'a toujours laissé libre. Même si c'est pas une passionnée de sport automobile, elle m'a toujours laissé libre de cette passion.
Ouais. Est-ce que c'est plus facile d'assurer un pilote automobile? Est-ce que tu étais bien assuré? C'est pour ça qu'elle n'était pas inquiète? Ou...
Non, non. Ben pourtant, elle vendait de l'assurance, c'est même que j'ai rencontré. Ça m'a coûté 20 $. Et donc, mais elle n'était pas au courant de comment ça marchait en sport automobile. Donc, non, non, elle n'était pas vraiment au courant là, que s'il arrivait quelque chose, que là, ça serait ouf. Ça serait problématique.
Ouais.
Mais n'empêche que quand je suis content d'avoir fait une bonne partie de ma carrière avant justement de fonder une famille, parce que c'est certain que ça amène des responsabilités, ta tête ne veut pas. Ben, elle est avec la famille. Puis c'est ça qui arrive. C'est qu'à un moment donné, quand tu commences, t'es tout seul, t'es juste responsable de toi, mais cette responsabilité-là, comme père, ben, je pense qu'on l'a tous, et moi, j'y en ai pas échappé.
Est-ce que tes enfants sont conscients de la carrière que tu as connue?
Non, Anthony n'est pas intéressé du tout par le sport automobile.
Non.
Il y a non. Non, puis bon, quand je parle Quand je parle de sport automobile, c'est comme si je parlais de pétanque. Tu sais, il n'y en a absolument rien à foutre.
OK. Puis est-ce que eux, ils te voient à la télé une fois de temps en temps? Est-ce qu'ils sont.
Oui.
T'as juste un garçon, c'est ça?
Juste un garçon,
Ouais.
mais ils étaient là à Trois-Rivières quand on a gagné Grand Prix Trois-Rivières en 2018. Et puis, bon, ils étaient heureux. Tu sais, c'était un beau moment à vivre ensemble, tout comme quand on est allé à la cérémonie pour le Temple de la renommée du sport motorisé canadien. Toute ma famille était là, mes amis. C'était un moment magique parce que, bon, c'est les gens qu'on aime le plus au monde, hein, et puis ils comprennent très bien ma passion. Et à ce moment-là,
Mais ils ont pu constater qui était leur père à ce moment-là. T'sais. Puis je pense aux enfants de Patrick Roy, t'sais, qui ont connu leur père pendant que Patrick Roy évoluait. T'sais, il était encore très jeune. Eux, Tabarouette, c'est quand même les enfants de Patrick Roy. Toi, tu as été un grand dans la course automobile au Québec. Je veux dire, les enfants vont prendre de plus en plus conscience que leur père, Bertrand Godin, a réalisé de grandes choses. Ça doit être particulier. T'sais. Pour eux autres, c'est le père, mais une fois que. Tu sais, je parlais avec le fils de Jean Charest il y a 2 semaines à cette émission aussi. Puis là, je disais, être le fils de Jean Charest, c'était quoi? Ben, dis-moi, c'était juste mon père. Mais
C'est ça.
il a pris conscience de qui était son père plus vieux quand il a commencé à s'intéresser en politique, puis de savoir qu'est-ce que son père avait fait, puis il a regardé tout ce qui s'était écrit sur son père et tout ça. Il a pris conscience de l'ampleur de la carrière de son père un petit peu plus vieux. Quand ils sont jeunes, des fois, c'est juste mon père.
Ben, je pense que c'est exactement ça, et peut-être dans quelques années, Anthony, bon, va lire mes péripéties,
Ben oui.
ce que j'ai vécu en France, ce que j'ai vécu ici aussi, puis
Ouais.
il va peut-être plus faire un lien aussi
Ouais.
avec ce que lui vit comme passion, parce que Anthony est quand même un passionné de mécanique, il est passionné parce que bon, il est en technique d'usinage et puis il adore son métier, donc c'est ça, c'est bien qu'il vive ses rêves,
Ben oui.
parce que moi j'ai vécu les miens, puis je suis pas là pour imposer à personne là, de faire ce que moi j'ai fait. OK, faites ce que vous voulez faire et faites-le avec passion comme c'était la dernière fois que vous le faisiez. C'est un petit peu ma philosophie.
Exact. Je voulais te poser une question tantôt, ça vient de me revenir. L'impact qu'un pilote peut avoir sur la décision des ingénieurs, pour ce qui est des modifications à faire, ça peut être quoi? Parce que maintenant, avec tous les ordinateurs qui sont dans la course, on peut savoir exactement qu'est-ce que ça prend comme réglage. Est-ce que le pilote a encore un impact majeur dans la décision?
Ah ben c'est certain que le pilote, il y a un impact majeur, parce que des fois, faut aussi être en mesure de peut-être modifier son style de pilotage. Donc à ce moment-là, ça devient un enjeu. À l'époque, en Formule Ford ou même en Indy Light, on commençait à avoir l'acquisition de données. En 1995, l'ordinateur était un peu plus présent dans ces formules-là. Mais en Formule Ford, là, les seuls capteurs que j'avais, c'est mes deux fesses. Et puis là, il fallait que je dise aux ingénieurs comment la voiture se comportait, comment elle se comporte quand j'applique les freins, quand je commence à tourner le volant, quand je relâche les freins, quand j'accélère, que je détourne le volant. Dans chaque virage, donc, on pouvait passer 1 heure à décortiquer la réaction de la voiture. Et puis, cette compréhension-là faisait en sorte que mon ingénieur, juste avec la grimace que je pouvais faire quand je parlais d'une situation, il savait que c'était pire que un long virage. Et là, à ce moment-là, ben, il savait pas mal plus quoi faire. Des fois, bon, on alignait les ingénieurs sur la bonne piste. D'autres fois, oups, non, on n'était pas du bon bord, sauf que mon ingénieur me disait tout le temps, qu'on sait qu'il marche pas, au moins on le sait, ça marche pas. Donc c'est comme des fois un jeu d'essai-erreur, mais effectivement, avec les ordinateurs, on est capable de savoir combien de millimètres la voiture, c'est les amortisseurs se sont compressés au freinage, combien de degrés on a tourné le volant, à quel moment on a pu réaccélérer pour sortir le plus rapidement du virage. Donc c'est beaucoup plus facile pour les jeunes aujourd'hui de comprendre le pilotage que d'y aller à l'époque avec juste, ouais, je pense que je suis plus rapide sur ce tour-là que l'autre.
Il y a peut-être un, t'sais, les rôles inversés aussi, parce qu'avant, comme tu l'as dit, t'sais, vous autres, vos capteurs, c'était vos deux fesses, puis vous transmettiez l'information aux ingénieurs ou aux mécaniciens. Là, maintenant, avec toute la machine qui entoure la course automobile, toutes les données qui sont reçues, sont capables de vous dire, Bertrand, t'as freiné trop tôt à cet endroit-là. Sont capables de vous le dire.
Ah ben oui, tout à fait. Et puis aussi, il y a les simulateurs, là. Faut pas se le cacher, là. Entre mon Grand Prix 4 que j'avais en 1997 et puis ce que j'ai dans le sol maintenant avec les mouvements de suspension, avec le système d'e-box, je suis capable de ressentir les bosses justement parce que les circuits ont été modélisés par rayon laser. Donc, on est capable de sentir chaque bosse, chaque petite vibration. Et puis, ça nous emmène tellement. Ça faisait 25 ans que je n'avais pas piloté de Formule Ford quand on a rembarqué en 2018. Et quand le groupe à l'infini nous a commandité à Trois-Rivières, ah ben, j'ai rembarqué là-dedans comme si je n'avais jamais arrêté. Ma tête était. C'était facile. Alors que lorsque tu es longtemps sans piloter, à ce moment-là, ben, tu perds des capacités de perception qui n'est pas juste avec les yeux, qui est sensorielle. Les réflexes, disons, que deviennent moins des réflexes parce que le pilotage, lorsqu'il est anticipé, tu as moins besoin de tes réflexes pour t'en sortir. Donc, à ce moment-là, j'étais capable de voir les choses arriver bien à l'avance. Donc, je n'étais pas surpris et puis je faisais des choses que je faisais pas quand j'ai débuté. Parce que quand tu débutes, tes connaissances sont moins grandes, ton sens d'observation moins développé, donc tu comptes sur tes réflexes pour t'en sortir. Et c'est un petit peu la différence aujourd'hui. Les pilotes qui commencent à 5 ans, moi j'ai commencé à 18, ben, ils arrivent avec un bagage d'expérience. Ils ont 15 ans, puis c'est incroyable. C'est ça, ils ont 10 ans d'expérience vraiment pure. Et la compréhension, il se développe beaucoup plus rapidement qu'à notre époque.
Bertrand, je prendrai encore 2 heures avec toi tellement que j'ai des questions à te poser. Tu es super passionnant, puis je suis persuadé que ce soir, les auditeurs ont été grandement servis par tes propos. On peut consulter ton site web, Bertrand Godin, c'est ça?
Oui, ben oui, bertrandgodin.com. Vous allez voir, il y a une belle boutique aussi, Martine, là, qui est ma gérante, a créé une boutique extraordinaire avec des items de qualité. Et
Oui.
puis, j'en suis bien fier. Et puis, de continuer de partager ma passion, c'est pour moi un grand, grand privilège.
Ouais. Est-ce qu'on peut te lire à quelque part? Je sais que dans le temps, tu faisais des chroniques à la presse. Est-ce que c'est encore le cas?
Oui,
Ouais.
ben oui, il y a les chroniques techno à la presse. Vous pouvez regarder aussi les courses de Formule E.
Formule E, oui.
Ça aussi, c'est toujours en développement, là, Formule électrique avec Charles-Antoine Tinotte à TVA Sport. Donc, j'enseigne encore à l'École nationale de police à Nicolet. Donc, ça, pour moi, ça aussi, ça me permet d'être derrière un volant, que ma tête soit toujours en pilotage
Ouais.
et c'est fort intéressant.
Bertrand Godin, ça a été un plaisir. Je te souhaite de passer une agréable soirée, puis un gros merci pour ce 60 minutes.
Ben merci et puis ben bonne soirée à tous.
Nous autres, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer un super de beau week-end et on se retrouve lundi midi pour Marceau. Salut, bye bye.
Marceau, le soir.
Pour votre demande de pardon ou waiver chez